Yes, qui s'est transformé. Bonsoir et bonsoir à toutes et à tous à cette réunion organisée par le nouveau parti anticapitaliste, hein, avec ce soir un invité de marque.
On va tout le temps éteindre les portables, c'est ça qui fait des
marque sans patron en l'occurrence. Raoul Godoy, qui est ouvrier céramiste à Zalone, qui est dirigeant national du Parti des travailleurs pour le socialisme d'Argentine et qui est actuellement député pour le FIC, pour le Front de gauche des travailleurs au Parlement provincial de Neuquén, pour reprendre la formule consacrée par les journalistes du CRU, le premier député trotskiste de Patagonie. Alors c'est sûr que ça claque davantage, mais on a les lettres de noblesse qu'on peut et certaines valent plus que d'autres. Hein. Avant de commencer, je voulais d'abord transmettre les salutations des camarades de la CGT de Goudière, qui aujourd'hui avaient le comité européen, ne pourront pas être présents, mais que Raoul va rencontrer demain au tribunal à Nanterre, donc demain matin. S'il y a également l'arrivée prochaine, sous peu, de Marseille, venue spécialement d'une délégation de camarades de la CGT de Fralides. Et surtout, la présence de camarades qui sont venus en voisin du 93, mais qui n'ont pas moins le mérite d'avoir mené une lutte héroïque contre la famille Peugeot et l'ensemble de ses complices, et un certain nombre sont remplacés. Et donc aujourd'hui, sont présents les camarades grévistes de PSA Aulnay dans la salle. Que ces applaudissements pour la lutte qu'ils sont en train de mener, pour la bagarre qu'ils sont en train de porter. Avant de commencer, de céder la parole à Raoul, je voulais juste commencer par une anecdote qui nous racontait il y a quelques jours avant-hier. On était à Montmartre, on essayait en tout cas de chercher les traces des communards. Et Raoul nous racontait que donc à Zanon n'est pas simplement donc, cette usine dans laquelle les travailleurs ont dit que les licenciements et la fermeture n'étaient pas une fatalité. C'est pas simplement ce pôle d'organisation de la contestation de la subordination ouvrière et populaire au niveau provincial et même national. C'est aussi depuis quelque temps un centre de formation. Ils ont ouvert une sorte de lycée en fait à l'intérieur, sous contrôle ouvrier aussi, pour les ouvriers qui n'ont pas fini leur scolarité ou qui souhaitent reprendre leurs études. Et ils me racontaient qu'il y avait une ouvrière de production qui était venue le voir avec une liasse de textes et justement qui avait des questions en tout cas ou qui voulait en parler. Il s'agissait de reproduction des décrets signés Léo Frankel, donc au sujet justement de la réquisition des ateliers abandonnés, de l'élection de délégués ouvriers à la place de l'encadrement, c'est-à-dire en fait les décrets sur le travail de la Commune de Paris, et on était précisément donc, sur les lieux du crime dans un sens, donc Raoul était d'autant plus ému, et ce n'est que justice aujourd'hui dans un sens que de faire cet aller-retour avec l'Argentine, voir d'un peu plus près cette expérience communarde du 21e siècle de Patagonie et écouter justement ce qu'ont à nous raconter les camarades, puisque comme on dit donc dans ce tract d'invitation, c'est ni une fatalité, quelque chose d'obligé effectivement que de subir la crise capitaliste, que de faire passer les licenciements, que de valider les fermetures de boîtes. Et aujourd'hui, je crois que Raoul justement va nous en parler et également d'autres choses. Merci.
Buenas tardes, buenas noches a todos. ¿Sí? En primer lugar, agradecerles la presencia a todos los compañeros y compañeras que están esta noche presentes.
Tout d'abord, pour remercier la présence de l'ensemble des camarades qui sont ici ce soir.
Repetir el agradecimiento, bueno, el saludo a los camaradas de NPA, que han trabajado y han convocado a esta charla, a esta reunión.
Remercier également pour les camarades de NPA qui ont travaillé, qui ont contribué à organiser cette réunion.
Nuestro agradecimiento y un reconocimiento muy grande a los camaradas que han puesto a disposición la librería para poder desarrollar esta actividad y que sabemos que son defensores de una causa y son conocidos justamente por la causa del pueblo palestino, que también es nuestra causa y queremos agradecer.
Et également remercier les camarades donc, de la librairie Résistance, hein, qui sont, on le sait, défenseurs, qui portent le drapeau de la lutte du peuple palestinien, qui est aussi la cause qu'on défend. Donc merci.
Y bueno, y también ya un saludo muy especial a los camaradas de Peugeot, de André, que hemos compartido una asamblea y que a su heroica huelga, y bueno, que hemos conocido amigos, camaradas, y que nos hemos hecho parte también de la misma lucha internacional.
Et une salutation toute particulière donc, pour les camarades de Donné, avec qui j'ai pu participer aux côtés de qui j'ai pu participer à l'AG lundi, et qui sont des amis, des camarades, et on fait partie de cette même bataille internationale aujourd'hui.
El motivo de mi viaje es un motivo militante. Es de alguna manera. No solamente vengo a contar una experiencia de lucha en Argentina, de nuestra fábrica Zanón, sino vengo a aprender también que las luchas que se están llevando hoy adelante en distintos lugares del mundo.
El motivo de mi viaje es avant tout militant, c'est-à-dire que je viens porter, raconter l'expérience de la lutte à Zanón, de la lutte qu'on a menée, mais également apprendre d'autres luttes aujourd'hui qui sont en train de mener dans différents endroits du monde.
Nosotros siempre partimos de la base y eso siempre tratamos de tenerlo en nuestras asambleas, explicárselo a nuestros compañeros contra los falsos nacionalismos que nos imponen los gobiernos y las burocracias sindicales, rescatar las banderas del internacionalismo obrero militante y bueno, queremos actuar con coherencia al respecto, por eso hoy hemos hecho un esfuerzo y estamos acá.
Ça a toujours été la base d'ailleurs du discours qu'on a défendu en AG auprès de camarades. Face au faux nationalisme qui est justement répercuté par les gouvernements, par les bureaucraties syndicales, on a toujours défendu les couleurs de l'internationalisme ouvrier militant, et de façon à être cohérent avec cette bataille, justement, c'est pour ça qu'on a fait cet effort et qu'aujourd'hui je suis ici avec vous.
Ya van 6 años de lo que se ha denominado la crisis capitalista de carácter histórico. Ya se han eliminado miles de puestos de trabajo, han habido algunas luchas. Y los trabajadores intentamos empezar a discutir entre nosotros, los trabajadores, y las fuerzas de la izquierda radical dan una alternativa a esta crisis. Porque o los trabajadores ponemos nuestra impronta o la van a seguir poniendo estos gobiernos.
Puisque aujourd'hui, ça fait 6 ans déjà que la crise capitaliste de dimension historique a commencé avec sa cohorte de licenciement. Et aujourd'hui, on a un certain nombre de travailleurs à vouloir discuter, également au sein de l'extrême gauche, à discuter de quoi faire face à la crise, puisqu'il y a aujourd'hui, quelle alternative face à la crise, puisqu'aujourd'hui, donc, ou les travailleurs reprennent l'initiative, ou c'est les gouvernements-là qui vont continuer à nous faire payer la facture.
Hoy, leí algún diario de Praga que decía que hoy Francia había reconocido oficialmente la recesión. Como si los trabajadores y trabajadoras no la viviéramos ya hace mucho tiempo con miles de desocupados.
Je disais que dans un journal, je pense que la France venait de reconnaître l'entrée officielle en récession, comme si les travailleurs et les travailleuses justement ne vivaient pas déjà cette récession, ne vivaient pas cette crise depuis déjà un certain temps.
Los trabajadores no necesitamos que nos hagan anuncios por los medios de cómo estamos viviendo nosotros esa situación, porque la padecemos en carne propia todos los días nosotros y miles de familias. La conocen hace más de 4 meses los compañeros de Gutiérrez, los compañeros de Onlé, de Peugeot, la conocen compañeros de Continental, ya hace rato que vienen enfrentándola en cada una de las fábricas, pero la idea es ver si podemos hacer también una respuesta internacional, internacionalista, mucho más radical y mucho más de conjunto.
Y no hay necesidad de anuncios justamente dans les médias de cette crise qu'on subit au quotidien, que subissent nos familles. Ça fait déjà donc 4 mois que les camarades de Donné sont en lutte, camarades de Goodyear, il y a eu avant eux les camarades de Continental. Et la question, je pense, c'est de savoir si on est capable de discuter, de penser à une riposte à la fois internationale et internationaliste qui serait réellement à la hauteur, qui serait plus efficace.
Zanón fue el producto justamente de un estallido de crisis en Argentina, lo que ellos llaman crisis, pero en realidad es que cuando los capitalistas dejan de ganar lo que quieren, intentan descargar esos malos negocios contra los trabajadores y sus familias, contra los trabajadores y el pueblo.
Zanón es un producto, ha comenzado en fait, una experiencia, un momento de crisis, o plutôt, la crisis es cuando los capitalistas en fait, no ganan pas ce qu'ils veulent, o plus autant qu'ils veulent. Et qu'ils essaient justement de faire payer ces mauvaises affaires aux travailleurs et aux travailleuses et à leurs familles.
Nosotros entendimos desde un principio que nuestra lucha no estaba solamente radicada en nuestra fábrica, sino que entendíamos que había un profundo problema social que afectaba no solo a los obreros de Sanón, sino a millones de desocupados, a los estudiantes y a muchas fábricas que también estaban en peligro, a trabajadores de la educación, en la educación pública. Era un ataque en regla contra, bueno, contra los sectores populares.
Et on a compris aussi que le problème auquel on avait à faire face, c'était pas un problème simplement de notre usine, de notre entreprise, mais c'était un problème beaucoup plus profond, justement, qui touchait à l'époque des millions de chômeurs en Argentine, qui menaçait des entreprises, qui touchait également les étudiants, qui touchait d'autres secteurs de travailleurs, comme les travailleurs de l'éducation publique, de l'éducation nationale en Argentine.
Hubiese sido completamente insuficiente, completamente impotente tratar de resistir solo dentro de nuestra fábrica sin ver que alrededor había millones de desocupados y había muchos sectores de lucha que aunque no eran de nuestro sindicato, no eran, muchos no tenían ni siquiera un sindicato con el cual reclamar, pero sí considerarnos como hermanos de clase que estábamos en una misma lucha.
Y on s'est vu que c'était complètement absurde de penser qu'on allait pouvoir résister tout seul. Et que sans voir justement qu'autour de nous il y avait des millions de chômeurs, qu'il y avait d'autres secteurs en lutte, qui n'étaient peut-être pas de notre syndicat, même y compris parfois qui n'avaient pas du tout de syndicat à leur tête, mais en tout cas de considérer l'ensemble de ces fractions justement comme des frères de classe.
Lo primero que nos hizo entrar y discutimos una crisis abierta en la asamblea de Sanón era ver la magnitud del problema, era ver el alcance que tenía ese ataque que teníamos. Y entender que no estábamos solos y que para poder dar una lucha, para enfrentar no solo al patrón, sino a su justicia, a su gobierno, a todos sus funcionarios, íbamos a tener que hacer una lucha muy grande.
Y una de las primeras grandes discusiones que hemos tenido a Zanón, justement en AG, c'était de façon a réfléchir a la importancia del problema auquel on faisait face, justement, y que la lucha que on allait devoir mener, c'était pas simplement une lutte contre le patrón. Mais c'était également une lutte contre la justice bourgeoise, contre le gouvernement, contre l'ensemble de ses fonctionnaires, justement, donc une lutte d'ensemble.
Ver la magnitud del problema nos llevó a preparar una lucha grande. Por eso, desde un principio, cuando nos dijeron que iban a haber planes de despido y que podían haber cierres como en otras fábricas, nosotros empezamos a hablar con cada uno de los compañeros dentro de la fábrica, pero también empezamos a hablar con cada uno de los compañeros afuera de la fábrica. Con los estudiantes, con los docentes, a todos lados íbamos con la bandera de Sanón y con una hoja explicando cuál era la situación de los trabajadores.
Quand on a saisi l'importance de ce problème, on s'est également préparé pour une lutte d'ampleur. Et quand on a pris conscience, en tout cas, on a vu les premiers plans de licenciement tomber, justement, on a commencé à parler avec l'ensemble des camarades dans l'usine, mais également avec l'ensemble des travailleurs à l'extérieur de l'usine, avec en direction des étudiants, en direction des enseignants. Justement avec un tract qui expliquait quelle était la situation qu'on était en train de vivre.
Partimos de la firme convicción, el convencimiento de que los trabajadores podíamos generar una alternativa, que no teníamos por qué aceptar despidos, no teníamos por qué parar la crisis. Entonces esa consigna que muchas veces se escucha, que la crisis la paguen los capitalistas, hay que darle cuerpo, hay que darle forma y hay que darle una fuerza social que la haga cumplir.
Et on avait cette conviction chevillée au corps, justement, que les travailleurs pouvaient être une alternative, que les licenciements n'étaient pas une fatalité, justement, et que on n'était pas obligé de payer la crise, et même compris que le fameux slogan, justement, donc que la crise soit payée par les capitalistes, par les patrons, il fallait lui donner du chair, il fallait lui donner de la chair, il fallait lui donner un corps réellement, il fallait lui donner une force sociale capable de la mettre en application.
A los patrones, a los capitalistas, a sus gobiernos, a su justicia, a su policía, no le alcanza solamente con hacer una declaración en un papel.
Puisque le patronat, son gouvernement, ses flics, justement, ils s'arrêtent devant rien, et certainement pas devant simplement une déclaration sur un tract, justement, une prise de position de travail.
Hay que organizar una fuerza social suficiente para poder derrotarlo.
Il faut organiser une force sociale suffisante, justement, pour être en capacité de les contrer.
En Sanón, cuando vinieron las amenazas de despido, todos los compañeros en el año 99, 2000, ya antes del estallido del 2001, la empresa decía que tenía crisis y que tenía un plan para empezar a despedir. Nosotros dijimos que no, pero empezamos a discutir cómo enfrentarlo.
Y lorsque le patronat, Kazanon a commencé à nous faire part de ses premiers projets de licenciement en 99-2000, donc avant la grosse crise en Argentine de décembre 2001. Lorsqu'on a eu vent de ces plans de licenciement, justement, on a dit évidemment que c'était pas possible, et on a commencé à discuter de comment, des possibilités justement de contrer ces licenciements, ces projets de licenciement.
Demandamos desde nuestra organización sindical, desde la comisión interna y luego del sindicato, que abran los libros de contabilidad, pero no de los últimos meses, sino de los últimos años. ¿Cuánto dinero había ganado Sanón durante tantos años de la fábrica con nuestra explotación?
Et de nos revendications, d'abord à partir de la commission interne, qui en Argentine, donc c'est le syndicat au niveau de l'usine, au niveau d'une entreprise, et après au niveau du syndicat provincial, donc qui regroupe à Neuquén donc quatre usines-services, on a revendiqué l'ouverture des livres de compte. Et pas simplement l'ouverture des livres de compte, voire la comptabilité des derniers mois, mais la comptabilité sur les dernières années, c'est-à-dire combien de fric, combien de trésorerie Woody Zanon, le patron, avait amassé au cours de toutes ces années d'exploitation sur notre dos.
Con cada compañero de cada sector de la fábrica empezamos a hacer números nosotros, a contar cuántos cerámicos producíamos y a qué precio se vendían en el mercado y controlando cada carga del camión. Mientras estaba el patrón, nosotros fuimos haciendo todos los números y las cuentas para atrás de lo que habíamos producido durante tantos años.
Ce qu'on a commencé a hacer avec des camarades dans les différents ateliers, on a commencé a faire notre propre comptabilité, une comptabilité ouvrière, c'est-à-dire à compter le nombre de mètres carrés qu'on produisait, le nombre de palettes qui étaient chargées donc, sur les camions à Zanon, qui produisent donc de la céramique, du rayon céramique et du carrelage, et à faire réellement les calculs et à voir combien d'argent était rentré dans les caisses justement du patron au cours des dernières années.
Et ce fut le premier élément básico de contrôle obrero, parce que nous commençons à démontrer comment est l'exploitation capitaliste, qui sommes les qui travaillons, et après ils parlent de l'exil.
Et ça a été le premier élément de contrôle ouvrier, en fait, c'est-à-dire qu'on a montré qui étaient ceux qui travaillaient réellement et après pourquoi, et après, dans les bureaux, on parlait de crise capitaliste.
Et cada obrero de Sanón, cada compañero de Sanón, empezó a llenarse de odio y a darse cuenta que nos estaban estafando, que nos estaban robando y que encima nos querían echar a la calle.
Et l'ensemble des camarades de Zanon ont commencé à sentir monter en eux un sentiment de rage, même de haine, en voyant que non seulement on nous volait, mais en plus on pouvait nous foutre à la porte.
Entonces hicimos reuniones convocando a todas las familias, y venían las mujeres, las esposas, las hermanas, las hijas de cada obrero, porque éramos un pequeño grupo de trabajadores, y para enfrentar semejante poder político, sabíamos que la lucha iba a ser muy dura, empezamos a convocar aliados. Y la primera fue de la familia y se formó una comisión de mujeres impresionante que ellas mismas se encargaban de decir esto y denunciar esto en los medios y en la comunidad con hojas, con volantes y yendo a las radios hablando como mujeres que tienen que soportar por ahí la doble presión y soportar también la economía familiar con los niños y demás. Lo decían con mucha fuerza, mucho mejor que nosotros.
Et on a commencé à chercher des alliés, et une des premières décisions qu'on a prises, parce qu'on était un petit groupe de travailleurs et on savait que la lutte allait être dure justement, donc il nous fallait des alliés, on a commencé à faire des réunions donc avec les membres de la famille des travailleurs, avec notamment les femmes, les sœurs, les filles, les mères des travailleurs de Zanon, en créant une commission de femmes, qui après justement s'est chargé dans les radios communautaires, dans les quartiers avec des tracts justement de répercuter les informations, d'être aussi porte-parole du combat qu'on est en train de mener, et même y compris en commençant à poser la question de la double oppression qu'elle subissait et qu'elle allait subir d'autant plus s'il y avait effectivement licenciement.
Los compañeros, la mayoría tenía mucho miedo de lo que podía pasar, había incertidumbre. Porque había muchos millones de compañeros desocupados, una economía que se derrumbaba y nadie veía un horizonte porque estaba muy caótico. Entonces, con los compañeros al principio no podíamos lanzar ninguna medida de lucha, era muy difícil. Entonces lo que dijimos es, este tiempo de preparación, no hagamos una huelga adentro tal vez si tienen miedo, pero acompáñenos a armar comisiones, a difundir, ir a otros sindicatos, ir a la universidad, ir a otros sectores que estaban en lucha para difundir esta necesidad de pelear juntos.
Et néanmoins, dans l'usine, il y avait encore à l'époque beaucoup de peur. Il y avait le poids du chômage qui était extrêmement présent à cette époque en Argentine et qui pesait sur les camarades avec un horizon qui semblait parfaitement bouché. Et ce qu'on a commencé à dire, c'est que, justement, à nos collègues de travail, c'est que si vous n'êtes pas prêts encore de mener le combat à l'intérieur de l'usine, au moins accompagnez-nous de façon à ce qu'on soit en mesure de propager, d'informer d'autres secteurs du combat d'ensemble qu'il faudrait mener à l'université, auprès d'autres syndicats, auprès de secteurs en lutte.
La bandera de Salón empezó a estar desde ese momento en cada uno de los conflictos, en cada una de las luchas. A veces íbamos 10 obreros, 20, 30, a veces íbamos 2, pero en todos lados íbamos, llevábamos nuestra solidaridad y después luego en nuestras asambleas comentábamos cómo estaba la situación. Los obreros de Salón solo estaban expectantes y un núcleo pequeño se movía, pero los demás escuchaban atentamente.
C'est pour ça qu'on a commencé à voir les drapeaux donc, du syndicat, les drapeaux de Zanon dans tous les conflits, dans toutes les luttes qu'il y avait au niveau provincial. Parfois il y avait 10 camarades, 20 camarades, 30, ou même parfois simplement 2 ou 3 travailleurs. Et à chaque fois donc, on amenait un message de solidarité, et après en AG avec les autres travailleurs, justement, on répercutait, on commentait la situation. Et la majorité des travailleurs étaient dans l'expectative, attendaient, mais en tout cas écoutaient ce qui se passait.
Y comenzamos a convocar reuniones amplias donde nosotros convocamos a todas las organizaciones que estuvieran en lucha, a todos los que quisieran saber y todos los que quisieran venir, abríamos para que vinieran organizaciones sindicales, estudiantiles, de derechos humanos, organizaciones políticas de izquierda, y les comentábamos cómo era nuestra situación y escuchábamos consejos y ideas de todos para poder ir pensando, y eso lo trasladábamos luego a la fábrica para que los compañeros vieran que había preocupación también en otros lugares, que no estábamos solos.
Y on a commencé a appeler a des réunions les plus larges possibles avec des organisations, des secteurs en lutte, mais des syndicats, des organisations de défense des droits de l'homme, des partis politiques d'extrême-gauche, et avec à chaque fois justement pour écouter leurs conseils, expliquer quelle était notre situation, pour penser collectivement justement le combat qu'on allait avoir amené, et après tout ça on le répercutait, on le relayait en assemblée, et on montrait aux travailleurs qu'il y avait une préoccupation, une inquiétude, en tout cas qu'il y avait une date de Zanon, en fin de désigner.
La coordinación con los sectores que estaban en lucha para ir buscando la forma de pelear juntos, primero de noticiarnos y después la forma de pelear juntos. Y se dio una unidad muy importante con los compañeros desocupados, con compañeros que ya estaban en la calle, ya estaban parados y peleaban por trabajo, por un subsidio, y entonces empezamos a unir nuestras banderas, los de ocupados y desocupados, y fue una cosa que a nosotros nos fortaleció muchísimo.
Et on a commencé donc à développer les différentes formes de coordination justement pour poser les conditions de cette bagarre d'ensemble qu'on voulait mener. Et une des premières alliances là aussi qu'on a faites, c'était avec les travailleurs au chômage, avec les piqueteros qui eux étaient plus dans les entreprises depuis un certain temps, parfois depuis des années, mais néanmoins en posant la question et qui luttaient donc pour un vrai travail, pour une allocation, une indemnité chômage. Et on a commencé à poser justement la question de cette unité entre donc, travailleurs en activité et travailleurs au chômage dans un même combat.
Nosotros no decíamos solo vengan a apoyarnos, sino que decíamos peleemos juntos. Y entonces levantábamos las consignas de Salón, pero también levantábamos las demandas de los compañeros desocupados y las cabeceras de nuestras movilizaciones tenían todas las demandas conjuntas de los sectores que salían a manifestar. Así también se fueron pregando los estudiantes en un momento. Pero la primera alianza muy fuerte fue con los compañeros y compañeras desocupados. Y fue la pelea por trabajo genuino y fue la pelea por basta de cierre. Fábrica que se cierra, fábrica que se ocupa y se vuelve a producir. Fue un grito de guerra a nuestro punto.
Y on ne demandait pas simplement aux camarades chômeuses et chômeurs de venir soutenir la lutte de Zanon, de notre combat, mais on combattait également à leur côté dans les caractères de nos manifestations. Il y avait à chaque fois donc, sur les banderoles les revendications à la fois des travailleurs donc de Zanon et des travailleuses et des travailleurs au chômage et l'ensemble des secteurs qui pouvaient participer. Et donc cette première alliance justement elle a été forgée avec autour de revendications qui étaient donc un vrai travail, d'avoir auprès de nous donc un véritable travail, un véritable emploi donc pour les piqueteros et également aucune fermeture et avec un slogan qui était boîte qui ferme, boîte qui doit être occupée, usine qui doit être occupée, entreprise qui doit être occupée. Y que va a ser mise sous producción, sous contrôle ouvrier.
También se dio una relación muy estrecha, muy profunda con los compañeros y compañeras estudiantes. Se vio que ellos también recibían un ataque en la educación pública, había intentos de reformar las leyes en la universidad para restringir el ingreso y muchas veces nos encontrábamos en la calle y cuando ellos tenían amenaza de represión por la policía, bueno, estábamos nosotros cerca de ellos y ellos llevaban volantes, hojas también a la fábrica y se dio una alianza muy importante también ahí.
Il y a un secteur avec lequel on a construit une alliance extrêmement forte avec les camarades étudiantes et étudiants qui à ce moment-là faisaient face à une tentative de réforme des lois sur l'éducation supérieure dans la province, une loi qui visait à restreindre l'accès à l'université. Et donc là aussi, quand ils étaient en lutte et qu'ils étaient menacés de répression, donc on était à leur côté, on était proche d'eux, et vice-versa, ils venaient à l'usine avec leur matériel, leur tract pour nous soutenir.
Ellos lanzaron una campaña en la universidad que se llamaba Un estudiante, un peso, fue un estudiante, un euro, por la lucha obrera del salón. Y fue impresionante cómo se difundió ese fondo de huelga y esa ayuda, que después terminó mucho mejor cuando ocupamos la fábrica y la pusimos a producir.
Y les camarades étudiants avaient notamment lancé une campagne qui était donc Un étudiant, un peso, argentin. C'était un euro, c'est-à-dire que en fait, pour financer la caisse de grève, le fonds de grève, le fonds de résistance de Zanon, et donc ça a été magnifique, ça a permis justement de diffuser notre combat, et évidemment ça a eu encore plus de portée parce qu'on a commencé à vraiment occuper l'usine et à la mettre en production.
Bueno, obviamente eso, y mucho de lo que estoy diciendo no lo inventamos nosotros, y justamente, de alguna manera, estos días atrás cuando recorrimos las calles del Mayo francés, que se cumplieron 45 años, hace unos días nada más, de aquella huelga general, esa bandera de la Unidad Obrera Estudiantil tuvieron más vigencia que nunca y tienen hoy más vigencia que nunca y no la podemos dejar solo para los días de fiesta, sino que tiene que ser una militancia cotidiana para buscar esa Unidad Obrera Estudiantil.
Évidemment, en tout cas pour cette dernière achetée, on n'a pas inventé grand chose en fait, il suffit de penser que dernièrement encore, on faisait le tour de Paris, mais le Paris 68 tard, donc et on vient de fêter le 45e anniversaire donc de mai 68, et cette question justement de l'unité ouvrière étudiante, aujourd'hui il me semble qu'elle a plus d'actualité que jamais, dans un sens, on a porté ce combat également donc en Argentine les années.
Todo esto era en una situación conflictiva en todo el país, pero en el medio de esto sucede que un joven compañero de Sanón que llegó a la fábrica y estábamos con toda la presión de la patronal y la presión de la lucha, bueno, se descompuso y murió en la fábrica por falta de atención médica, porque esta empresa que ganaba millones de pesos ni siquiera tenía los tubos de oxígeno para poder atender al compañero y bueno, murió en la fábrica. Y eso ya fue lo último y desde ahí lanzamos la huelga con toda nuestra, dijimos basta, y lanzamos una huelga por tiempo indeterminado cerrada.
Et en fait, donc le pays, en Argentine, il y avait une situation qui était déjà très conflictuelle, mais tout a changé le jour où un jeune camarade est arrivé à l'usine et donc sur son poste de travail a fait un malaise. Et il se trouve que le niveau d'exploitation était tel qu'il n'y avait même pas, y compris donc à l'infirmerie, des bouteilles d'oxygène pour les premiers secours. Et il se trouve que ce camarade, justement, est mort et décédé donc sur l'usine. Et à partir de ce moment-là, on a dit que ça pouvait plus durer, que ça suffisait. Et on a lancé la grève justement pour. On a eu une. Quelle est la grève? On a commencé la grève.
Fue la primera huelga fuerte en nuestra fábrica, que la que unificó. Eso. Fue la primera huelga fuerte en nuestra fábrica que. Donde la mayoría de los obreros comprendieron que a los capitalistas no solo no les importa explotarnos, sino ni siquiera les importa nuestra vida. Y entonces la comisión de mujeres y todo que ya venía se fortaleció mucho más y agarró muchísima bronca porque, bueno, por esta misma situación, y bueno, fue una huelga durísima que duró 9 días, en la que la empresa tuvo que retroceder en todo el plan de despido, tuvo que retroceder y bueno, tuvo que poner ambulancias, médicos, y tuvo que permitir una comisión obrera que controlara el tema de la seguridad, la higiene en la fábrica todos los días. Inspectores obreros que decían si se podía trabajar o no en cada uno de los sectores. Fue una huelga histórica que, a pesar del dolor de la muerte de nuestro compañero, hizo que todo el mundo se parara y tomara las cosas en sus manos. A tener la concepción de que los trabajadores tenemos que tomar nuestra vida en nuestras propias manos.
Et cette grève, ça a été la première grève dure sur l'usine en 2000. Et là, la majorité des travailleurs a compris, en tout cas, que les capitalistes, non seulement ils en ont rien à faire de notre exploitation, mais en plus, pour eux, notre vie ne vaut strictement rien. La commission de femmes a eu encore plus de poids. Et donc, ça a été une grève de 9 jours qu'on a menée, une grève extrêmement dure, à la suite de laquelle donc, la direction a dû reculer sur tout, a dû reculer notamment sur les projets de licenciement. Mais également par rapport à la question de la sécurité sur le travail, donc en mettant à disposition des ouvriers, donc une ambulance, aussi des médecins. Et même y compris, on a réussi à mettre sur pied une commission ouvrière CHSCT, c'est-à-dire une commission ouvrière pour l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail, avec des inspecteurs ouvriers qui faisaient le tour de l'usine, des différents ateliers, pour dire si c'était possible de travailler ou non. Et donc ça a été une grève extrêmement dure, une grève historique. Et dans un sens, ces travailleurs ont commencé à comprendre que notre destin, notre vie, on pouvait réellement la prendre entre nos propres mains.
Unos meses después, porque la crisis continuó, la situación continuó, la empresa vio que no podía hacer recortes y recortes y recortes porque los trabajadores ya no permitían ninguno, entonces directamente quiso cerrar la fábrica, hizo un lockout patronal y dijo: yo cierro, y para desarmarnos, para dejarnos en la calle y luego abrir con un grupo que él quisiera. Entonces tiró el lockout patronal, que fue en diciembre del 2001, casi justo con el estallido que hubo en el país, conocido en todos lados, ¿no? Como el estallido del 2001 en Argentina.
Quelques mois plus tard, donc la crise continuait, et voyant que c'était impossible de procéder par coupes sombres successives, par attaques successives, le patron a décidé tout simplement de fermer l'usine, donc a décrété un lockout, donc à fermer l'usine, nous a tous mis dehors, et l'objectif évidemment c'était de nous mettre à la porte et après de la rouvrir avec un groupe, en tout cas des travailleurs sélectionnés, triés sur le volet. Et ça, c'était juste au moment, de façon plus ou moins contemporaine à la crise argentine, donc de décembre 2001, que dont vous êtes très certainement au courant.
Et cette crise à nous nous encontrons mieux préparés. Teníamos ya comisiones de trabajo, fundamos lo que se llamó la Coordinadora Regional del Alto Valle, o sea, la previa que en la Coordinadora Regional del Alto Valle participábamos sindicatos, movimientos de desocupados, partidos de izquierda radical, estudiantes, y entonces en esos lugares debatíamos acciones en común, de coordinación, porque a toda esta historia la burocracia sindical, las grandes centrales sindicales cerraban fábricas, había despido y no hacían absolutamente nada, estaban completamente a la defensiva. Las luchas eran parciales y eran por fábrica, eran por lugares específicos. Los sindicatos jugaron un rol completamente ausente en semejante crisis, por lo menos las centrales sindicales.
Y cuando la crisis a realmente comenzó, en todo caso a explosar, on était évidemment bien mieux préparés. Donc on avait des commissions de travail dans l'usine, on avait également ce qu'on avait appelé la coordination régionale de l'Alto Valle, donc de la haute vallée du Neuquén, donc dans notre région, dans laquelle à laquelle participaient donc des syndicats, mais également des mouvements de travailleurs au chômage, des partis d'extrême gauche, et on débattait justement dans cette coordination des mesures, des actions à prendre, des mesures à mener justement, le tout dans un contexte. Il faut le rappeler, les grandes centrales syndicales ne faisaient strictement rien, c'est-à-dire que, alors que les usines fermaient les unes après les autres, les combats qui étaient menés, c'était des combats partiels, des combats par usine, et donc leur rôle était parfaitement en deçà de la situation.
Esa coordinadora regional que impulsamos respetaba la autonomía de cada una de las fábricas y cada uno de los movimientos, pero nos permitía un debate común y llevar propuestas a cada uno de nuestros lugares que discutíamos en común. Y a nosotros nos enriqueció mucho la mirada, pudimos ampliar el horizonte y también poner críticamente lo que hacíamos. Muchas veces corregir errores propios con la participación de distintos sectores. Para nosotros fue muy enriquecedor y se convirtió en una alternativa de lucha concreta. Se movilizaban miles de trabajadores y trabajadoras en Neuquén, que es una provincia en la Patagonia, detrás de la bandera de la Coordinadora Regional del Alto Valle. Sirvió una herramienta de lucha alternativa muy importante por momento.
Donc, tout en respectant donc au sein de cette coordination l'autonomie donc des différentes usines, des différents mouvements qui y participaient, c'était l'occasion de débattre d'un certain nombre de propositions, et c'était en tout cas pour nous l'occasion d'élargir notre horizon, de débattre de ce qu'on faisait dans l'usine, également de corriger parfois les erreurs qu'on avait pu commettre, donc de façon extrêmement enrichissante, et ça a réellement constitué une sorte d'alternative de lutte. Qui nous a permis de converger parfois des milliers de travailleurs donc, au niveau de Neuquén, de cette province de Patagonie, et la coordination régionale réellement a été un instrument en tout cas alternatif de lutte.
Pero a su vez también siempre mantuvimos la política de seguir dando la pelea dentro de las centrales sindicales. Siempre exigimos planes de acción porque nosotros consideramos que más allá de quién ocupe un lugar en cada uno de los sindicatos son nuestros, son de los trabajadores, son organizaciones de los trabajadores. Entonces, más allá que tengan burócratas o no, hay que exigirles y no hay que regalarles ese lugar. También hay que disputárselo si hay que peleárselo.
Mais notre politique, néanmoins, était également au niveau des centrales syndicales d'exiger d'elles des plans d'action, justement des mesures concrètes. Et quelle que soit la personne qui puisse occuper tel ou tel poste dans une centrale syndicale, dans un syndicat, on considère qu'avant tout les syndicats, même compris quand ils sont contrôlés par les bureaucrates, c'est les organisations des travailleurs, et qu'il faut les récupérer, et que par conséquent on ne peut pas leur faire cadeau en tout cas de ça. Et qu'on est en capacité d'exiger d'eux justement de récupérer ces syndicats, sur la mission d'exiger d'eux justement des mesures concrètes. Donc ça, c'est ce qu'on a fait aussi.
Bueno, con este marco de lucha empezó en Salón también la ocupación y la puesta en marcha de la fábrica. Con los compañeros se sentían rodeados, se sentían que no estaban solos. Y entonces eso ayudó mucho a que los trabajadores sintieran la confianza de poner la fábrica en marcha y bueno, empezar a organizarlo. Hubieron alrededor de 300 lugares de trabajo en todo el país que de una u otra manera ocuparon la fábrica y la pusieron a producir.
Y es dans ce cadre donc qu'on a commencé à occuper l'usine, qu'on l'a mise en production. Et ça a été d'autant plus facile, ou d'autant moins difficile en tout cas, que les camarades se sentaient entourés justement par l'ensemble des actions qu'on avait menées, se sentaient davantage en confiance justement pour s'organiser et pour organiser. Et dans l'ensemble du pays, donc Zanon n'a pas été un cas isolé, puisque dans l'ensemble du pays, d'une façon ou d'une autre, il y a eu environ 300 entreprises, usines, du secteur secondaire ou tertiaire, mais surtout secondaire, qui ont à un moment donné donc occupé, où les travailleurs ont occupé les lieux et ont mis en production leur repris leur outil de travail.
Surgieron muchos debates políticos, ideológicos, alrededor de si estaba bien, si había que ocupar y poner a producir, si había que hacer una vía legal, habían debates si había que hacer una cooperativa o si era la idea del control obrero directo, por vías autónomas, sin importar. Hubieron muchos debates. Pero nosotros lo que pusimos por delante fue la fábrica que estuviera ocupada y estuviera en lucha, teníamos un solo punto en común: defender cada uno de los lugares ocupados y puestos a producir, y después que en cada fábrica se dieran los debates que hubieran que darse.
Et donc dans cette situation, il y a une multitude de débats qui a fait surface, des débats politiques, idéologiques sur comment est-ce qu'il fallait occuper, comment est-ce qu'il fallait produire, est-ce qu'il fallait choisir une voie, un chemin légal. Au contraire, donc faire une coopérative par exemple, ou privilégier donc l'action directe, le contrôle ouvrier direct sur la production. Et nous, face à cette situation, on a eu un discours qui était extrêmement clair, c'est-à-dire qu'avec les usines qui étaient occupées, avec les usines qui étaient en lutte, hein, on avait un seul point commun de toute façon, c'était nous défendre, les défendre et nous défendre tous ensemble. Et à partir de ce moment, je pense que les débats se donnent en interne sur les perspectives.
Porque en última instancia la ocupación y puesta en marcha fue una respuesta necesaria y era una bandera, fue una bandera de lucha, y después cada uno con sus ritmos y con su visión, pero el hecho de ocupar la fábrica y pasar por encima de la propiedad privada era un hecho en sí mismo revolucionario.
Y après justement, chacun en tout cas, pouvait agir avec ses propres rythmes, avec sa propre vision dans les usines qui étaient occupées, qui avaient été mises en production sous contrôle des travailleurs. façon, on estimait que le fait de toute façon d'occuper l'usine, c'est-à-dire de passer par-dessus la propriété privée, c'était déjà un fait en soi et que c'était quelque chose de central qu'il fallait justement défendre.
Nosotros lanzamos una consigna que era tocan a una, tocan a todas. Es decir, para cuando hubiera un problema en alguna fábrica, ir y defenderlo entre todos. Más allá del pensamiento, de la diferencia, no, pero defender el lugar ocupado por los trabajadores.
Y face a cette situation, donc, les camarades avaient mis en œuvre une espèce de version Argentine, Patagone, des trois mousquetaires, un pour tous, tous pour un. Où, donc, s'il suffit qu'ils touchent une usine, c'est comme si on était touchés nous-mêmes. Et donc, le fait de défendre, justement, coûte que coûte, l'ensemble des lieux qui pouvaient être menacés, donc des lieux occupés par les travailleurs qui pouvaient être menacés par des expulsions, etc., etc. Donc, créer une coordination, une solidarité entre ces usines.
Lo que en algún momento era lucha en la calle junto a los estudiantes por las demandas, por ahí en las movilizaciones en la calle, luego se transformó en una colaboración concreta por parte de compañeros y compañeras universitarias, de profesores, para ayudarnos a organizar el control obrero de la fábrica.
Y por si donc de notre secteur, donc el secteur étudiant, ce qui avait été à un moment donné, donc une lutte côte à côte ou coude à coude dans la rue, justement, donc aux côtés du mouvement étudiant, ça s'est transformé par la suite, donc après l'occupation, à travers une solidarité, une alliance avec à la fois les étudiants, mais également les enseignants de l'université pour organiser, pour qu'ils nous aident et qu'ils contribuent à organiser le contrôle ouvrier et la production sous contrôle ouvrier dans les usines.
Los primeros meses, bueno, esa colaboración persiste hasta el día de hoy porque hay lo que han confirmado un acuerdo marco entre la Universidad Nacional del Comahue y el sindicato Ceramista y los obreros de Sanón de colaboración recíproca. Los obreros nos comprometimos en esa acta a defender la educación pública, laica y gratuita, y los estudiantes se comprometieron, los estudiantes y profesores, a defender la gestión obrera y a poner su conocimiento al servicio también de nuestra causa.
Ça s'est cristallisé à travers un accord cadre qui a été signé entre l'Université nationale de Comahue et l'Université de Neuquén de la région et les travailleurs de Zanón. Qui devait se traduire justement par une collaboration entre à la fois les étudiants et le monde universitaire et les travailleurs. Donc nous, de notre côté, justement, on s'engageait à être à leur côté pour défendre une éducation publique, gratuite et laïque contre les réformes. Et de leur côté, donc les enseignants, les étudiants, justement, s'engager à défendre la gestion ouvrière de Zanón, et cette collaboration perdure jusqu'à aujourd'hui.
La colaboración que había sido en la calle, en lucha concreta, junto con los compañeros desocupados, una vez que ocupamos la fábrica nosotros, abrimos a 90 puestos de trabajo para que ingresaran compañeros de todos los movimientos desocupados también junto con nosotros adentro de la fábrica, a trabajar.
Y cette, pour ce qui est du mouvement des mouvements piquetés, cette lutte très concrète qu'on avait menée à leur côté dans la rue, justement, après qu'on ait commencé à mettre en production, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ouvert 90 postes de travail, justement, qu'on a offert à l'ensemble des différents mouvements de chômeurs, parce qu'en fait, il y avait différents mouvements par affinité politique ou autre, donc de chômeurs dans la région qui avaient appuyé la lutte de Zanón, et de façon à ce qu'ils travaillent justement à nos côtés sur les chaînes.
En el camino nosotros sufrimos represiones en la calle muchas veces, represiones brutales por parte de la policía. De hecho, un compañero, Pepe Alvarado de Zanón, en una de las represiones le dispararon entre 5 policías con sus escopetas y tiene 64 perdigones de balas de goma en su cuerpo y le va a hacer un ojo. Pero 64 perdigones de balas de goma en su cuerpo, por ejemplo.
Au cours de cette lutte, évidemment, du combat qu'on a mené, on a dû affronter la répression policière, parfois était extrêmement dure, notamment avec nos camarades Pepe Alvear, qui à l'époque militait dans le mouvement des travailleurs au chômage, au MTD, qui est aujourd'hui les travailleurs de Zanón. Lors au cours d'une manifestation, donc après une dure répression, on a relevé, en tout cas sur son corps 64, impact de balles en caoutchouc, et ce qui lui a coûté d'ailleurs un œil. Donc ça c'était donc pour ce qui est de la dureté de la répression policière.
En cada manifestación muchas veces teníamos compañeros presos y por parte también la judicialización. Yo tuve más de 7 causas penales, tanto provinciales como federales, por la ocupación o por las manifestaciones o por un corte de ruta, y también tuvimos mucha presión por el lado judicial también.
Y sistemáticamente, donc, il y avait une énorme pression qui pesait en plus de sur la répression policière, puisque la justice évidemment jouait contre nous. Dans mon propre cas, j'ai eu à un moment donné, j'ai eu de façon concomitante en même temps 7 procès qui étaient ouverts contre moi, donc au niveau provincial et fédéral. Donc pour différentes actions, ça pouvait être des coupures de route, etc., etc., des manifestations qu'on avait faites.
Et nous dénonçons très fort aussi que la justice est une justice de classe, est un instrument seulement pour les capitalistes. Que la justicia y la policía en última instancia protegen a los capitalistas. Y decíamos que en las cárceles está llena de hijos de obreros, está llena de hijos del pueblo, y nunca uno ve a un corrupto, a un burócrata, a un presidente que vaya a la cárcel más allá del desfalco que haga. Pero sí a los trabajadores y al pueblo siempre somos los que pagamos.
Y lo que hemos denunciado sans relâche, justement, c'était que. En dernière instance, la justice, la police, c'était des instruments au service des capitalistes, et que dans les prisons étaient pleines de fils d'ouvriers, de fils du peuple, et que jamais on voyait en prison justement le moindre corrompu, le moindre bureaucrate, le moindre président justement pour ce qu'ils avaient pu commettre. Et en revanche, les prisons étaient pleines d'ouvriers.
Eso es lo que a mí nos sorprendía mucho porque a Sanón, detrás de Sanón. Geográficamente hay ubicada una cárcel de máxima seguridad, está Sanón, y atrás en los fondos hay una cárcel de máxima seguridad, y una vez vinieron familiares de presos y trajeron muchos paquetes, y los presos habían donado sus raciones de comida durante 3 días para aportar a la olla popular a la lucha de los obreros de Sanón. Eso fue impresionante.
C'est octobre-novembre 2001. Ce discours, justement, on a été extrêmement surpris parce que donc un jour, on a vu des parents de prisonniers arriver avec des paquets. Et en fait, c'était des rations alimentaires que les prisonniers de la prison de haute sécurité, du pénitencier de haute sécurité, qui est juste derrière le polygone industriel, la zone industrielle sur laquelle se trouve Zanon, qui est une prison. Les prisonniers, justement, sensibles à ce discours-là, ils avaient donc mis de côté leurs rations. Et nous les donner justement pour la marine populaire, pour la cantine populaire qu'on avait, puisqu'à ce moment-là, les camarades étaient dans la lèche et ils avaient strictement rien à manger.
Ahí entendimos nosotros que nuestra lucha estaba tocando puntos muy profundos, que iba mucho más allá de la lucha por Sanón, mucho más allá de la ocupación, mucho más allá de la cooperativa y mucho más allá de una lucha corporativa. De alguna manera, en muchos sectores de la comunidad veían como una bandera de rebeldía, como una bandera diferente de tratarnos, y se convirtió Sanón en un símbolo.
C'est à ce moment-là qu'on a eu vraiment la conscience que la lutte qu'on menait était beaucoup plus profonde. C'était plus qu'une lutte pour Sanon, c'était plus qu'une lutte pour l'occupation ou qu'une coopérative ou une lutte corporatiste, justement, des ouvriers céramistes. C'était une lutte qui englobait l'ensemble de la population de Neuquel, qui voyait justement dans notre lutte une espèce de symbole de rébellion, un véritable drapeau justement différent, et donc pour un véritable symbole.
El gobierno primero apostó que no íbamos a poder, que íbamos a ser incapaces de hacer andar la fábrica. Entonces nos reprimió en la calle o nos amenazaban, tuvimos amenazas de muerte, tuvimos causas judiciales, y como vio que por ese lado no se podía quebrar, en un momento ya dijeron, bueno, basta, y mandaron una orden de desalojo ya desde Buenos Aires y Neuquén, y hicieron todos los preparativos para desalojar la fábrica en el 2013, en el 8 de abril del 2013.
Donc le gouvernement d'abord a cru qu'on allait de toute façon incapable de relancer la production, et donc nous a harcelé par mille moyens avec la répression, avec des menaces de mort en direction de camarades, avec des procès qui nous étaient intentés. Et quand ils se sont rendus compte que ça marchait pas et qu'on continuait, donc il y a un avis d'expulsion qui est arrivé de Buenos Aires directement, et donc l'ensemble des préparatifs ont été faits justement de façon à organiser l'expulsion de l'usine Manu Militari. Donc ça c'était le 8 avril 2003.
Nuevamente tuvimos que hacer una asamblea muy seriamente en la fábrica porque vimos que estaban decididos y que ya tenían todas las órdenes judiciales, y bueno, convocamos primero a los compañeros de Sanón. Y dijimos, bueno, compañero, está, la orden de desalojo está, y bueno, nosotros sabemos que ellos no tienen límites, cuando han reprimido muchos lugares, y sabíamos que nos íbamos a jugar, y preguntamos quién, bueno, si estábamos dispuestos a resistir, si estábamos dispuestos a dar la pelea dentro de la fábrica, y si era así, bueno, que nos preparemos. Y bueno, fue por unanimidad, todos los compañeros dijeron, estamos dispuestos a quedarnos.
Et à ce moment-là, on a fait une AG qui était encore un peu plus, enfin, qui était plus sérieuse que les autres, sans doute, puisque on a informé l'ensemble des camarades, l'ensemble des travailleurs que du gouvernement national, ils étaient parfaitement décidés, en tout cas, à nous expulser. Les ordres étaient là, l'ensemble des préparatifs, en tout cas, étaient sur la table également. Et donc, on a dit aux camarades, aux collègues, que l'avis d'expulsion avait été donné de Buenos Aires. Et qu'on savait également que le gouvernement, de ce point de vue-là, n'avait aucune limite. C'est une période, parenthèse, en Argentine, dans laquelle entre décembre 2001 et le 26 juin 2002, il y a eu 39 morts pour fait de grève ou manifestation. Et donc, on pose cette question-là aux camarades, et à l'unanimité, les collègues, les camarades des ANOM, décident justement de résister et décident de rester dans l'usine.
Y entonces hicimos una conferencia de prensa con todos los compañeros, con todos los trabajadores, llamamos a los medios y anunciamos públicamente que los trabajadores de Salón no aceptamos irnos, que no nos íbamos a ir. Y anunciamos y les advertíamos al que quisiera venir a desalojarnos que nosotros teníamos el legítimo derecho de la autodefensa y que nos íbamos a defender.
Y a ese momento una pila de la prensa, una comunidad les médias, on a fait donc une conférence de presse en public avec l'ensemble des camarades de l'usine présents, et on a posé clairement le fait qu'on n'était pas prêt à s'en aller, qu'on allait rester, et on a lancé un avertissement justement que si il y avait l'expulsion, en tout cas on avait le droit légitime à l'autodéfense.
Durante un par de semanas, los talleres de la fábrica, las soldadoras, las fresadoras, los tornos, todas las máquinas empezaron a funcionar en función de preparar la autodefensa de la fábrica, los bloqueos y elementos de autodefensa de muchas formas.
Y a ce moment-là, pendant plusieurs semaines, à différents postes de travail, sur les fraises, sur les tours, sur la soudure, les machines ont commencé à produire, alors pas tant des carrelages, mais à préparer différents instruments pour préparer cette autodéfense.
En la fábrica también tenemos muchos tractores, palas mecánicas, de esas grandotas que cargan. Hay mucha maquinaria pesada también que también se empezó a preparar.
Et dans l'usine, on a un certain nombre de grosses machines, notamment des énormes tractopelles, en fait, qui servent à charger la terre ou à charger la glace, justement, dans les citernes qui, après, justement, préparent la matière pour faire le carrelage. Et donc, là aussi, on a commencé à équiper ces machines pour l'autodéfense.
Pero en la misma conferencia de prensa nosotros preguntamos públicamente qué iban a hacer los sindicatos de Neuquén, qué iban a hacer las organizaciones de trabajadores, y los increpamos y les dijimos públicamente, queremos que digan qué va a hacer cada uno de los dirigentes sindicales el día del desalojo, qué iban a hacer. Entonces eso generó un movimiento también de muchos trabajadores que empezaron a decir espontáneamente hay que apoyar, hay que apoyar, hay que apoyar, y se logró que ese día hubiera una huelga general en toda la provincia de todos los sindicatos estatales, de docentes y de miles de trabajadores.
Y en même temps, parallèlement, ce qu'on a fait au cours de cette conférence de presse, c'est qu'on a posé clairement la question aussi de ce qu'allait faire, de ce comptait faire, ce que comptaient faire les syndicats au niveau provincial, ce que comptaient faire les syndicats de Neuquén, et ce que comptaient faire les dirigeants syndicaux, justement, ce jour-là, le jour de la vie d'expulsion, et s'ils allaient, de quel côté ils allaient être, en fait, et ça a permis, justement, que, par en bas, surgisse un mouvement de travailleurs qui a commencé à faire pression, et qui a commencé à dire, effectivement, qu'il fallait à tout prix appuyer les ANOM, il fallait à tout prix appuyer l'usine, et donc ce jour-là, donc, le jour de la vie d'expulsion, s'il y a eu grève générale provinciale à Neuquén, donc dans la région. Grève générale provinciale avec donc, différents secteurs, et notamment les fonctionnaires, le secteur public et les enseignants.
Las madres de Plaza de Mayo, qui han sido un símbolo de lucha durante muchos años en Argentina, viajó una delegación, un colectivo, como con 40 madres de Plaza de Mayo los días previos a traernos su apoyo moral, y a nosotros nos fortaleció de una manera increíble, porque de alguna manera era levantar la bandera de los 30.000 desaparecidos durante la dictadura, volvieron a tomar vida en Sanón, en Neuquén, y eso le dio una fuerza moral también, no solamente a los bolivianos, sino a toda la gente que ese 8 de abril se movilizó todo hacia la puerta de Sanón.
Et en même temps, les maires de la place de Mai, qui sont donc les maires de disparus, qui luttent depuis des années justement pour la réapparition en vie de leurs enfants qui ont disparu pendant la dictature argentine entre 76 et 83, les maires de la place de Mai ont appuyé justement notre mouvement. Il y a une délégation, y compris, qui est arrivée de Buenos Aires donc quelques jours avant le le 8 avril 2003. Et tout ça, justement, ça nous a donné une énorme force, puisque c'était joindre les drapeaux de Zalone à ceux des 30 000 disparus de la dictature. Donc tout un combat, et ça nous a permis justement de résister avec beaucoup plus de confiance le 8 avril, et également l'ensemble des camarades, des travailleurs qui se sont rassemblés dans l'usine donc le 8 avril, le jour de l'expulsion.
Bueno, ese día en una fábrica pequeña en la Patagonia con 350 obreros estaban rodeados por alrededor de 8.000 trabajadores y trabajadoras, un paro provincial y todos los medios pendientes de qué iba a pasar, y ese día fue donde se derrotó por última vez cualquier intento de desalojo porque no pudieron mover ni un solo policía.
Et ce jour-là, donc le 8 avril 2003, donc, dans une toute petite usine du sud de l'Argentine, de Patagonie, avec 350 ouvriers, entourés par 8000 travailleuses et travailleurs, avec au même moment donc, une grève générale au niveau provincial, ce jour-là, justement, on a défait définitivement toute tentative d'expulsion, puisque disons, les flics ne pouvaient pas agir.
Para muchos, para miles, ese día también, a partir de ese día. Se entendió, se comprendió, se empezó a compartir que la causa de los trabajadores es una causa no solamente posible, sino una causa necesaria.
Pour des milliers de personnes, ce jour-là aussi, des milliers de personnes se sont rendues compte, de militants se sont rendues compte que la cause des travailleurs, c'était pas quelque chose simplement de possible, mais également quelque chose de nécessaire, quelque chose qui pouvait gagner.
Yo me había olvidado contar porque dentro de la coordinadora regional del Alto Valle también habían delegados de hospitales públicos en Neuquén. Y cuando nosotros hicimos este anuncio que íbamos a resistir, ellos también sacaron un comunicado diciendo su propia conferencia de prensa, trabajadores, enfermeros y todo, de hospitales públicos, diciendo públicamente que si ese día iban a desalojar ellos en el hospital público, no iban a atender a ningún policía.
Lo que yo voy a decir también es que el día que hicimos nuestra conferencia de prensa a la suite de la vía de expulsión, paralelement, donc, des camarades, donc des syndicalistes dans les différents hôpitaux publics de Neuquén ont fait de leur côté une conférence de presse en disant qu'ils nous appuyaient, tout d'abord, et surtout que donc, ces syndicats d'infirmiers et d'infirmières, en annonçant publiquement que le jour de la d'expulsion, s'il y avait du grabuge, qu'ils ne prendraient aux urgences aucun flic si le flic était blessé.
Se estaba hablando en serio.
Y était tout à fait sérieux quand ils disaient ça.
Pero se transformó en una causa que se transformó en una causa social profunda, era mucho más que la lucha de una fábrica, sino el hecho de tomar las demandas de los demás, de pelear unificadamente en la lucha, no solo pidiendo apoyo, sino compartiendo la lucha, para nosotros fue un hecho muy importante.
C'est là qu'on s'est rendu compte, effectivement, que cette cause allait bien au-delà de notre vie, c'était un combat qui allait au-delà de Zalone, et que c'était donc des revendications d'ensemble qu'on devait porter, et que c'était un combat plus large.
No me quiero extender mucho más por ahí para dejar para la pregunta, pero para ir finalizando.
Ah, donc je veux pas, donc je sais qu'il avait le temps, mais donc il me disait non, donc puis il voulait pas prendre de temps sur le débat, sur les questions, sur l'échange, pour s'acheminer à la conclusion.
Bueno, la lucha de Zalone fue esa resistencia durante años, fue solamente de poder producir y vender en forma directa, no teníamos ninguna forma legal, solamente teníamos la legitimidad de la lucha que se había llevado adelante, entonces no nos podían desalojar, pero tampoco teníamos formas legales de poder seguir subsistiendo en una economía capitalista, que también es un imposible vivir toda la vida así.
Pendant des années, donc, Zalone, ça a été donc, des années de résistance, on produisait et on vendait directement, un cadre, enfin hors cadre légal évidemment, et simplement avec la légitimité du combat qu'on avait mené, mais tout en sachant également que dans un cadre capitaliste, en tout cas, c'était notre situation n'était pas viable à long terme.
Nuestra apuesta al principio era hacia un movimiento nacional mucho más importante, mucho más grande, de un movimiento de fábricas que ocupara ese lugar con la lucha directa en las calles y demás. Pero todo empezó a bajar. Y cada uno empezó a buscar su forma y empezamos a quedar aislados en un momento porque éramos una de las pocas fábricas que no tenía ninguna forma legal.
Y nuestro pari, Notre projet au début, c'était créer un vaste mouvement national de l'ensemble de ces usines justement qui avaient été occupées, qui étaient sous production, et de façon à se battre donc ensemble. Et puis après, il y a eu le reflux. Et à ce moment-là, chaque usine a commencé à vouloir un peu chercher une solution de son côté. Et à un moment, on a été assez isolé puisqu'on était en fait la seule usine à refuser la logique de la SCOP, en fait, à refuser le cadre légal, puisque ce que les camarades revendiquaient, c'était la nationalisation de leur boîte sous contrôle de l'ouvrier, l'expropriation totale, la nationalisation contre l'ouvrier.
Nuestra demanda era la expropiación y la nacionalización de la fábrica bajo administración obrera directa y poner la fábrica al servicio de un plan de obras públicas para generar escuelas, hospitales, viviendas. Esta consigna permitía que muchos sectores la tomaban como propia. Los compañeros que no tenían vivienda, los que peleaban por una vivienda, los compañeros de la salud pública que defendían la salud pública y no tenían lugares, los compañeros que defendían la educación pública y necesitaban aulas. Entonces se hizo una demanda que no era que nosotros queríamos ser nuevos dueños, sino que era una demanda popular que embarcaba a mucha gente, y por eso era una consigna muy sentida, pero no fue imposible imponerla en esos momentos con ese nivel de lucha.
J'avais anticipé notre revendication, effectivement, donc c'était l'expropriation de l'usine et la nationalisation sous administration ouvrière directe, et de mettre l'usine au service d'un vaste plan de travaux publics pour la construction de logements, pour la construction d'hôpitaux, pour la construction d'écoles. Et ça nous a permis justement non seulement que notre lutte soit extrêmement populaire, mais de gagner justement des appuis chez les mal logés, justement, les sans-logis qui luttaient pour un logement digne, décent, du côté des travailleurs de la santé, qui également défendaient un secteur donc, public de la santé et de qualité en Argentine, également les camarades enseignants, maîtres d'école ou professeurs qui, justement, voyaient que les salles de cours étaient minuscules ou étaient dans des conditions lamentables et donc, par conséquent avaient besoin justement de structures pour enseigner. Et donc tout ça nous a permis justement de poser un certain nombre de revendications et démontrer que nous, ce qu'on voulait, ce n'était pas être les nouveaux propriétaires de cette usine, mais que l'usine devait être au service de la communauté, au service du peuple. Et donc ce n'était pas des revendications qui nous étaient propres, mais c'était des revendications qui étaient collectives.
Entonces, ahí decidimos de l'Assemblée.
Et néanmoins, le niveau de conflictualité, à ce moment-là, le niveau de lutte et de bagarre, ne nous a pas permis néanmoins de mettre en application, de faire... justement d'obtenir cette nationalisation, cette expropriation sous contrôle ouvrier, administration ouvrière directe, hein, donc au service de la communauté.
Et donc nous décidons de donner forme à la coopérative et anotarla légalement pour pouvoir pelear la légitimité et pouvoir que notre fábrica puisse seguir comprando et vendiendo, parce que, en última instancia, ya no estaba el desalojo, pero nadie iba a comprar cerámicos ilegales. Entonces, si necesitábamos vender para sobrevivir, entonces ahí buscamos la forma cooperativa para darle legitimidad, pero con el compromiso de que íbamos a seguir peleando por una salida de fondo y manteniendo la misma forma de funcionamiento desde siempre, con la asamblea. No importa el cargo, importa de que haya un colectivo para tomar las decisiones. El presidente, toda la forma legal que muchas veces tiene la cooperativa, que tiene el sentido de generar una jerarquía, nosotros desistimos de todo eso y dijimos es con la asamblea.
Y c'est à ce moment-là qu'on a décidé de donner un cadre légal en fait, au combat qu'on avait mené jusqu'à ce moment-là. C'est-à-dire qu'effectivement, la vie d'expulsion n'était plus là, mais on avait un problème, c'est-à-dire que la question de l'achat des matières premières, de la vente du produit fini, et avec de moins en moins on pouvait effectivement vendre directement donc aux consommateurs, mais avec des difficultés. Donc on a voulu donner un cadre donc légal à notre combat. Donc c'est pour ça qu'on a créé une coopérative, une équivalent du SCOP française, mais avec l'engagement néanmoins qu'on n'allait pas lâcher sur une solution plus structurelle de fond à notre problème, c'est-à-dire continuer à lutter pour la question de la nationalisation sous contrôle ouvrier, à la fois sur ZADEN et plus largement, et également de ne pas tenir compte, en tout cas, de l'ensemble du cadre légal qui souvent prend le dessus dans ces cas-là, c'est-à-dire avec donc un président, une hiérarchie de la coopérative, de la SCOP, etc., etc., mais y compris des différences de salaire, et que notre organe de décision central, ça allait continuer à être l'Assemblée Générale, peu importe sur le papier, qui fait quoi et qui est qui, donc voilà, au niveau de, des statuts qui avaient été déposés en, auprès de l'administration.
Y trasladamos y propusimos, trasladamos y se adoptó el mismo método que teníamos en el sindicato, que todos los dirigentes estuvieran solamente un periodo al frente de la cooperativa y después tenían que rotar y volver a trabajar a su lugar original de trabajo. Era solo un periodo y volver a trabajar.
Y on a fait adopter la misma méthode qu'on avait dans le syndicat, c'est-à-dire le syndicat. Là, le syndicat ouvrier et employé servi de la région de Neuquén, la question de la rotation, c'est-à-dire qu'en fait, il était inconcevable pour nous que les dirigeants de cette coopérative puissent occuper leur poste, en fait, plus qu'un certain temps, et que de toute façon, il fallait par la suite, donc à la fin de leur mandat, qu'ils reviennent en production, qu'ils reviennent à occuper en fait, le poste qu'ils avaient au moment du contrôle ouvrier.
Et que ningún compañero que esté ocupando un cargo de responsabilidad gagne más que en su lugar de trabajo, cobra el mismo sueldo.
Y pareil aussi que aucun camarade n'allait gagner plus que les autres travailleurs, et que de toute façon, et à présent, l'ensemble des travailleurs, quels qu'ils soient, gagnent le même salaire.
Cualquier compañero que ocupe un puesto de responsabilidad lo tiene que ocupar por la convicción que tiene y no por un interés económico o privilegio.
Et un camarade qui occupe un poste, en tout cas de responsabilité, doit le faire par conviction et pas par recherche d'un intérêt qui soit économique ou symbolique.
En el caso de nuestro sindicato ceramista, ya han pasado 4 camadas de trabajadores diferentes que han ido asumiendo los principales cargos. En la cooperativa ha pasado lo mismo, han formado parte de ella.
Et dans notre syndicat, donc depuis qu'on l'a repris, donc le syndicat au niveau provincial, depuis qu'on l'a repris des mains de la bureaucratie, il y a 4 générations entre guillemets de camarades qui ont occupé la direction du syndicat, qui à chaque fois justement par phénomène de rotation retournent en production, et donc c'est la même chose au niveau aujourd'hui de la coopérative.
Con estas mismas ideas también en las últimas elecciones que hubo en Argentina, bueno, se formó un frente de izquierda y los trabajadores entre el Partido Obrero, el PTS, que es mi organización, Izquierda Socialista, y en el caso de Neuquén también se sumó en forma militante la agrupación Marrón, Ceranista, que son compañeros independientes, que junto con el PTS estamos desde el principio impulsando este movimiento, y también participamos en el terreno electoral con candidatos, pero con las mismas características.
Et avec ces mêmes idées, et en tout cas avec les mêmes perspectives, lors des dernières élections qu'il y a eu en Argentine, donc il y a un front d'extrême gauche qui s'est constitué, donc le Frente de Trabajadores, le front de gauche et des travailleurs, en sachant que front de gauche, enfin gauche tout simplement en Argentine, en Amérique latine en général, ça veut dire extrême gauche, donc à ne pas confondre avec différents faux amis, plus ou moins directs, sous des latitudes plus. Local. Et donc un front qui était constitué par le Parti ouvrier, le Parti des travailleurs socialistes, donc mon organisation, par gauche socialiste, et au niveau provincial à Neuquén, donc par la liste marron, par le groupe marron, c'est-à-dire en fait c'est dans chaque syndicat en Argentine, normalement sur le papier, en l'occurrence dans le cas du SOEC, c'est le cas puisque c'est la démocratie ouvrière qui prévaut, mais tout courant peut présenter une liste. Donc voilà, et cette liste a une couleur, en fait. Donc ça peut être marron, vert, rouge, etc. etc. Et en l'occurrence, la liste marron, qui est la liste combative de classe, qui dirige le syndicat, puis qui a été récupéré des mains de la bureaucratie syndicale, donc avec des camarades du PTS et des camarades indépendants. Cette liste marron, donc, qui a un peu une figure au niveau provincial, a décidé d'intégrer le FIT, pour se présenter justement aux élections, et toujours avec les mêmes caractéristiques et les mêmes idées en fait que celles qui présidaient à la lutte de Zanon.
Nosotros dijimos el mandato dura 4 años y nosotros dijimos un año cada uno, un año y rotación, cobrando el mismo sueldo que cobramos en la fábrica. Y lo demás está puesto para un fondo de huelga, para colaborar con las luchas obreras y estudiantiles que se llevan adelante.
Et donc le mandat dure 4 ans, et ce qu'on a dit, c'est que sur ces 4 années, en fait, c'était chaque camarade, compagnie, accompagné, puisqu'il y a 2 camarades, 2 qui vont les remplacer Godoy dans quelques mois, enfin dans 6 mois maintenant. Donc sur ces 4 années, en fait, il allait y avoir donc, un camarade donc, tous les ans qui allait se succéder donc, au niveau du sein du Parlement provincial. qui est évidemment ce camarade député et eux allaient toucher exactement le même salaire qu'à l'usine, et que le reste, justement des émoluments, le reste du salaire perçu par les députés allait directement à une caisse de grève, une caisse de résistance justement pour les secteurs en lutte, pour les secteurs ouvriers, pour les secteurs étudiants.
Bueno, y nosotros vamos a ocupar nuestra banca con este uniforme, con la ropa de gafas, que es nuestra ropa de trabajo, que nos da pertenencia de clase y que para recordar en cada momento que somos los trabajadores los que estamos ahí.
Y donc les camarades occupent le plus grand âme des députés qui viennent en costume cravate. Donc ils arrivent donc à l'Assemblée donc avec leur bonne chauve qui Azanam est belge, comme vous voyez. Et donc pour montrer que c'est effectivement les travailleurs des travailleurs du FIC qui sont présents au Parlement et qui défendent les intérêts de leur classe.
Y entramos ahí para decir que los trabajadores tienen que confiar solo en sus propias fuerzas y solo en su lucha y en ninguno de los diputados que está ahí.
Y cuando entramos al Parlamento es para decir justamente que el mundo del trabajo, que los trabajadores y trabajadoras no pueden hacer confianza simplemente en su propia clase, en su propia fuerza y certainement pas en aucun des députés qui est présent dans l'hémicycle.
Y dijimos también, lo primero que dijimos fue que ellos hablan de crisis, esos diputados y todos los funcionarios que están ahí hablan de crisis detrás de sillones enormes, detrás de sueldos enormes. Entonces dijimos que todos los diputados presentamos un proyecto de ley que dice que todos los diputados tienen que cobrar el mismo sueldo que una maestra.
Es una dans le Parlement, et en fait au moment où il y a eu une grève très très dure là, des enseignants au niveau provincial, des enseignants du primaire qui a duré 2 mois à la rentrée en mars-avril, et ce qu'on a dit aussi c'était que alors que ces gens-là justement avec leurs conseillers parlementaires etc., parlent de crise bien assis dans leur fauteuil et touchent donc des salaires mirobolants, on a fait une proposition de loi justement visant à ce que l'ensemble des fonctionnaires, l'ensemble des députés, l'ensemble des politiques gagnent le même salaire qu'une enseignante qui, donc, au même moment, donc, les enseignantes, eux, notamment, étaient en lutte à même qu'elle.
No fue un invento nuestro tampoco. Esto lo tomamos justamente de la última recorrida que hicimos con el compañero Jean Martí, acá, por la comuna de París, cuando los comuneros dijeron que ningún funcionario podría ganar más que un obrero medio. De alguna manera fue levantar esa bandera de los comuneros y levantarla también como tribuna en la legislatura de Neuquén, donde los trabajadores, obreros y socialistas, conquistamos una banca.
Y es aussi cette idée, elle n'est pas de nous, en fait, on l'a tout simplement reprise de la commune de Paris, à l'époque où les communards, donc en 71, disaient que aucun fonctionnaire, aucun responsable ne pouvait toucher plus qu'un ouvrier du rang. Et ça, justement, cette revendication, on l'a portée donc au Parlement de Neuquén, où le groupe ouvrier socialiste, donc justement, a un siège.
Fue muy bien recibido por miles de trabajadores de la educación que estaban en huelga y que ellos pedían salario y les decían que no porque había crisis y tenían que ajustarse con lo que alcanzaban. Y los mismos funcionarios son estos, ¿no? Los diputados.
Évidemment, c'est une proposition qui a été plutôt bien accueillie par des milliers de travailleurs, notamment les enseignants qui étaient en lutte. Une lutte salariale très, très dure, justement, et on leur disait que, ben non, comme s'il y avait la crise, il fallait qu'ils se serrent la ceinture et qu'ils se contentent de ce qu'il y avait. Donc ces mêmes parlementaires, justement, qui siègent à mes côtés, enfin, dans l'hémicycle.
Fue una fuerza moral para la huelga misma.
Et ça a été, en tout cas, un instrument qui a permis aussi d'appuyer la lutte, ça a été un instrument de confiance pour les enseignants en grève.
También empezaron a organizarse, en forma fuerte las compañeras empleadas domésticas, que muchas veces son inmigrantes, son compañeras que tienen un trabajo muy precarizado, empezaron a organizarse también para presentar un proyecto en esa misma legislatura de que le reconozcan todos sus derechos como trabajadora, beneficios sociales, poder tener vacaciones, asistencia médica cuando se enferman. Y esto nosotros dijimos, nosotros vamos a presentar, pero necesitamos que ustedes se organicen y luchen en las calles por esto. Nosotros lo vamos a levantar como proyecto, pero ustedes necesitan organizarse y luchar por sus propios derechos.
On a mené aussi un combat avec les camarades employés domestiques, donc qui travaillent donc dans différentes familles, dans les maisons, dans les beaux quartiers à Neuquén notamment, qui sont pour la plupart immigrés, donc boliviennes, paraguayennes. et qui luttaient justement pour pouvoir accéder aux mêmes droits que les autres travailleurs, c'est-à-dire à la sécurité sociale, à l'assistance maladie, droit aux vacances notamment. Et nous, ce qu'on a dit, c'était que, bon, bien entendu, on allait faire une proposition de loi dans ce sens-là, mais qu'avant tout, il fallait qu'elle-même, justement, s'organise et qu'elle-même lutte, justement, dans la rue pour ses revendications.
En los últimos días hubo movilizaciones de los estudiantes universitarios defendiendo el boleto estudiantil. Y hubo movilizaciones porque, bueno, acá pasa lo mismo. Cada vez que tienes que viajar, tienes que gastar muchísimo dinero. Y entonces los estudiantes se les complica mucho para pagar y hay movilizaciones. Y entonces se acaba de presentar un proyecto por un boleto educativo gratuito, no solamente para los estudiantes, sino también para los trabajadores de la educación, los auxiliares de servicio, y esto desde ya lo vamos a acompañar con movilizaciones para llamar a la movilización y exigir en las calles que se respete un boleto educativo. Y también ha servido como una palanca para generar más movilización.
Également ces derniers jours, donc il y a un mouvement important pour ce qu'on appelle un ticket étudiant, en tout cas une sorte de carte orange étudiant local, donc de façon à ce que, puisque les coûts de transport, notamment sur une province comme celle de Neuquén, sont extrêmement importants, tant par rapport à l'université que par rapport à différents lycées, puisque il y a certains villages qui sont très, très éloignés des centres urbains, et donc de façon à ce que les transports soient gratuits, les transports publics soient gratuits à la fois pour les étudiants, mais également pour les travailleurs de l'éducation, le personnel de service, le personnel technique, etc., etc. Et ça aussi, on a dit qu'il fallait que ça se traduise, donc il fallait que ce soit une proposition, et que ça se traduise concrètement dans la rue, à travers un mouvement, à travers l'organisation.
Yo voy a terminar porque se extiende mucho y con la traducción se alarga el doble, y quiero abrir a preguntas y quiero pedir disculpas por la extensión, pero es difícil sintetizar 11 años.
Y donc, je présente mes excuses parce que c'est dur de synthétiser rapidement 11 années de lutte et de contre l'ouvrier, et en plus c'est parce qu'avec la traduction ça rallonge encore plus, et donc j'ai pris beaucoup de temps, mais donc, non, je voulais pas prendre sur le débat et donc m'arrêter là.
Pero lo último que quiero decir es trasladar un saludo de la asamblea de los obreros y obreras de Sanón, que producto de este viaje, bueno, envían un gran saludo caluroso y de agradecimiento a todos los que han colaborado en muchos lugares del mundo, y yo sé que acá también, que han colaborado a la causa de los obreros de Sanón. Cuando tuvimos órdenes en todo el mundo se generó solidaridad. Una carta, una nota, un apoyo, y los compañeros estaban profundamente agradecidos, y esa solidaridad internacional también educó a muchas camadas de obreros que descubrieron que la clase obrera no tiene fronteras, y también se dice hermanado con la lucha de cada uno de ustedes. Así que, por último, transmitir ese agradecimiento de parte de los compañeros y mía también. Muy, muy agradecido.
Et avant de finir, ce que je voulais rajouter, c'est également une salutation et un remerciement très grand des ouvrières et des ouvriers de Zanon, de leur assemblée générale, notamment qui remercient du fait que pendant des années, même y compris à certains moments, en 2001, en 2002, en 2003, qui remercient du soutien et de la solidarité internationale qu'ils ont pu recevoir, alors que ce soit simplement par une carte postale, par une visite, par un article dans un journal, ou simplement par la manifestation concrète du soutien, et que tout ça, justement, ça nous a permis à la fois de résister, et également ça nous a permis que des générations et générations d'ouvriers se forment justement dans ces principes de solidarité internationaliste, et qu'aujourd'hui on peut retransmettre à notre tour. Et donc encore une fois, donc, merci pour cette solidarité, et encore mes plus sincères salutations.
Merci.